Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le Vatican, l'Église anglicane et Al-Azhar, main dans la main pour dénoncer la traite et le trafic des personnes. Un accord inédit a été signé ce lundi au Vatican pour lutter contre l'esclavage moderne. Nous y revenons dès le début de ce magazine. Le pape a reçu les évêques du Timor oriental en visite ad limina. Leur dernière visite à Rome remonte au mois d'octobre 2002, quelques mois seulement après l'indépendance de cette région de l'Est de l'Indonésie. Au sommaire également, nous irons au Luxembourg où le nouveau gouvernement souhaite une remise en cause des relations actuelles entre l'État et les cultes. Soyez les bienvenus dans ce magazine. C'est un accord plein de symboles qui a été signé ce lundi matin au Vatican par des représentants des églises anglicanes et catholiques ainsi que l'université sunnite d'Al-Azhar en Égypte pour lutter contre les formes modernes d'esclavage et le trafic de personnes. Le protocole d'accord sous le titre de Global Freedom Network a été négocié avec le plein appui du pape François, de l'archevêque de Canterbury et du grand imam d'Al-Azhar sous les auspices d'une fondation privée, la Walk Free Foundation, une initiative inédite sur laquelle revient Antonino Gallofaro.
Historique, voire même révolutionnaire. Les adjectifs n'ont pas manqué pour décrire l'accord signé lundi. Un accord dynamique sur un sujet qui devenait urgent, selon Mgr Sanchez Sorondo, qui dirige les académies pontificales des sciences et des sciences sociales.
Aujourd'hui, le trafic humain, c'est une des plus grandes affaires de la criminalité. Et la criminalité à profit qui ne sont pas des lois internationales concrètes. Alors, nous devons avoir une réaction globale. Et la première question, c'est dire que ça convainc la population que ça, c'est un crime contre l'humanité.
Le texte signé, il s'agit maintenant de faire reconnaître aux institutions internationales que la traite d'êtres humains est un crime contre l'humanité, selon les mots du pape François, qui a condamné plusieurs fois ce grave délit, cette forme d'esclavage la plus répandue de ce début de XXIe siècle. Le texte se traduit donc en action concrète, Mgr Sanchez Sorondo.
Pour les chrétiens, faire un jour de prière et faire des jeûnes, un fort commun de prière, et comme a fait le pape pour éviter la guerre de Syrie. Une de la finalité, c'est que les J20 et les J8 prennent conscience du problème et parlent de ça.
L'union de plusieurs confessions témoigne de l'importance de cette question, mais la présence au Vatican d'un représentant d'Al-Azhar, la plus haute instance de l'islam sunnite, indique surtout que les relations entre les deux parties se sont détendues. Mahmoud Azab est le conseiller du grand imam d'Al-Azhar pour le dialogue.
On est contre le dialogue pour le dialogue, parler pour parler. On doit traiter des vrais problèmes ensemble et essayer de poursuivre, de suivre la réalisation des fruits de notre dialogue. Sinon, c'est une perte de temps. Qu'on définisse ensemble l'extrémisme pour lutter ensemble contre l'extrémisme. Au nom de l'islam et d'Al-Azhar, de toute bonne volonté humaine et humaniste, je ne suis pas d'accord sur l'injustice qui se passe dans le monde, surtout en Orient. La pauvreté, je répète mille fois, on en profite.
Dans cette lutte, des laïcs se sont joints aux religieux. L'accord a été signé sous les auspices d'une fondation privée, la Walk Free Foundation, fondée par un philanthrope et homme d'affaires australien.
Et pour plus de détails sur cet accord, rendez-vous sur notre site internet radiovaticana.va. Le pape François, en fin de matinée ce lundi, a reçu à la Maison Sainte-Marthe au Vatican la présidente de la République d'Argentine, Cristina Kirchner, accompagnée d'une importante délégation. Cette visite avait pour but d'apporter les vœux et l'affection du peuple argentin à l'occasion de l'anniversaire de la première année de pontificat. Le pape a attendu et accueilli la présidente de son pays à la porte d'entrée de la Maison Sainte-Marthe. La rencontre s'est déroulée ensuite dans une grande salle au rez-de-chaussée de la maison avec toute la délégation, puis ensuite en privé. Le pape et la présidente présidente Kirchner qui ont également déjeuné en tête-à-tête. La présidente argentine s'était déjà rendue au Vatican le 19 mars 2013 pour la messe d'intronisation du pape François. Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux. Lors de son homélie quotidienne, le pape a commenté l'exhortation du Christ en affirmant d'emblée qu'il n'est pas aisé de comprendre cette attitude de la miséricorde parce que nous sommes habitués à juger. Nous ne donnons pas naturellement un peu d'espace à la compréhension et à cette miséricorde, a dit le Saint-Père. Pour être miséricordieux, a précisé le pape, deux attitudes sont nécessaires. La première est la connaissance de soi-même. Le pape a ainsi invité à se repentir devant Dieu dont la justice se transforme en miséricorde et en pardon. Deuxième attitude pour être miséricordieux, a-t-il expliqué, c'est d'élargir son cœur car un cœur petit et égoïste est incapable de miséricorde. Une homélie à retrouver plus en détail sur notre site internet. Et autre activité de François ce lundi, il a reçu les évêques du Timor oriental en visite ad limina. La dernière visite à Rome de la conférence épiscopale timoraise remonte au mois d'octobre 2002, quelques mois seulement après l'indépendance de cette région de l'est de l'Indonésie. Le pape a salué la vitalité de l'église locale et appelé à poursuivre les efforts d'évangélisation dans ce pays aux fortes traditions locales. Xavier Sartre.
Je me réjouis avec vous parce que la semence de la bonne nouvelle a commencé dans votre pays il y a près de 5 siècles, a grandi et s'est épanouie dans votre peuple malgré la grande épreuve du dernier quart du XXe siècle, a souligné le pape, saluant la création d'un diocèse début 2010 et l'institution de la conférence épiscopale l'année suivante. Ces signes de vitalité invitent à un témoignage chrétien et un effort d'évangélisation toujours renouvelé, a poursuivi François, afin d'apporter l'évangile dans toutes les strates de la société. Le pape a rendu hommage au travail de l'Église dans la jeune nation timoraise, en particulier pour rappeler les fondements d'une société basée sur la dignité humaine et son destin transcendant. « Je suis sûr que vous, les prêtres, continuerez à jouer le rôle de conscience critique de la nation », a expliqué le Saint-Père, en restant indépendant du pouvoir politique, pour contribuer au bien commun de la société. L'Église ne demande qu'une chose, la liberté d'annoncer l'Évangile d'une manière intégrale, même si elle doit aller à contre-courant des valeurs en vogue, a-t-il souligné. Le pape appelle également tout chrétien à être un protagoniste de cette évangélisation qui n'est pas réservée aux clercs. Le souverain pontife appelle aussi les chrétiens timorais à ne pas avoir peur de l'inculturation dans un pays où les langues et les cultures traditionnelles sont fortes. Évangéliser les cultures locales exige donc une conscience missionnaire et suppose un dialogue humble et une force de conviction. Le pape a ainsi rappelé le rôle clé des évêques dans cette mission, des hommes capables de soutenir avec amour et patience l'œuvre de Dieu à travers son peuple, des pasteurs proches de leurs fidèles, veillant à la cohésion de leurs troupeaux, ayant le sens de la foi.
Le jugement d'Asia Bibi, de nouveau reporté, cette femme chrétienne pakistanaise, mère de 5 enfants, avait été arrêtée en 2009 pour blasphème et condamnée l'année suivante à la peine capitale par un tribunal de première instance. Ouvrière agricole, elle avait, semble-t-il, fait référence à Mahomet lors d'une altercation avec des femmes de son village qui lui reprochaient de polluer l'eau d'un puits en tant que chrétienne. L'audience devait avoir lieu ce lundi devant la haute cour de Lahore, mais elle a été annulée une nouvelle fois car un juge ne s'est pas présenté. Son avocat, Naïm Shakir, personnalité bien connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme au Pakistan, s'était pourtant dit confiant à la veille du jugement. Très médiatisée au Pakistan et dans le reste du monde, l'affaire Asia Bibi a provoqué une polémique concernant la loi sur le blasphème et suscité de vives tensions entre les islamistes et les autorités. En 2011, le ministre fédéral des minorités religieuses, Shabazz Bhatti, de confession catholique, qui avait soutenu Asia Bibi, a été assassiné par des hommes se revendiquant d'une mouvance islamiste. Direction à présent le Luxembourg, où une coalition inédite composée de libéraux, de socialistes et d'écologistes est arrivée au pouvoir à la fin du mois de février, et avec elle une nouvelle inquiétante pour les cultes dits conventionnés par l'État. Le nouveau Premier ministre, le libéral Xavier Bettel, avait annoncé en décembre dernier, lors de la présentation de son programme, que les nouvelles réalités sociétales exigeaient une remise en cause des relations actuelles entre l'État et les cultes. L'Église catholique, jadis très puissante au Luxembourg, reste la première confession du pays devant la communauté musulmane. Bien que directement visée, estime l'archevêque de Luxembourg, d'autres confessions pourraient ne pas survivre à cette séparation. Des délégations des différents cultes du Grand-Duché, menées par Mgr Ulrich, ont rencontré le gouvernement. Qu'en est-il ressorti? Nous posons la question au père évêque. Mgr Jean-Claude Ulrich revient tout d'abord sur les rapports actuels qu'entretient l'Église et l'État au Luxembourg.
Les rapports sont basés sur le concordat de Napoléon, c'est-à-dire que les prêtres sont payés par l'État. Il y a les fabriques d'églises qui sont des organisations semi-publiques sous tutelle de l'archevêché et de la commune. Les églises des presbytères appartiennent en général aux communes. Donc un système où État et Église sont fortement mêlés. Même s'il y a séparation, par exemple, aucun ministre ne peut devenir candidat aux élections, etc.
Vous avez rencontré le 10 février dernier avec d'autres représentants des cultes présents au Luxembourg, le Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé ?
Nous avons rencontré donc le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, avec le Conseil des cultes conventionnés. Les orthodoxes, les églises issues de la Réforme, les anglicans, la synagogue et l'église catholique. Tout d'abord, nous nous sommes présentés pour montrer quel est l'impact de nos communautés sur la société de Luxembourg, en soulignant aussi l'importance, la cohésion sociale pour laquelle œuvrent nos différentes communautés. Le Premier ministre a tout de suite parlé finances et nous a dit que nous coûtons trop et qu'on devrait faire des économies. Il a un peu parlé d'un modèle possible italien ou allemand avec les impôts, etc., mais sans précision. J'ai demandé à ce moment, au nom de tous les cultes conventionnés, d'avoir des propositions par écrit, que nous puissions discuter avec nos communautés pour ensuite donner une réponse au Premier ministre.
Donc si je comprends bien, c'est plus le facteur économique que ce qui avait déjà été évoqué, à savoir de nouvelles réalités sociétales qui sont la cause de cette remise en question des rapports entre l'État et les cultes.
Disons, il y a un fort mouvement anti-Église à Luxembourg, qui vient en partie aussi dans le passé une puissance de l'Église qui était un peu trop forte. Mais ils combattent une Église qui n'existe plus aujourd'hui. En général, il y a une grande ignorance sur le fait d'Église, sur le Concile Vatican II, toutes les réformes, etc. Et surtout, le point douloureux pour nous, c'est l'abolition de l'enseignement religieux dans les écoles. Nous avons pour le moment un système où il y a instruction religieuse qui est catholique et morale laïque. Dans le primaire, nous avons à peu près 70% qui choisissent religion catholique, 30% morale laïque. Dans le secondaire, cela fait à peu près 60-40%. Donc une majorité qui choisissent instruction religieuse. Et le gouvernement voudrait abolir les deux cours pour les remplacer par un cours de valeurs neutres et uniques.
Qu'est-ce qu'ils entendent par des valeurs neutres et uniques ?
Nous avons posé la même question parce que je ne comprends pas ce que c'est qu'une valeur neutre. Et d'autre part, il y a aussi un élément démocratique que les parents et les élèves choisissent l'instruction religieuse. Elle n'est nullement minoritaire, elle n'est nullement en crise. Et il y a une possibilité de choix. Pourquoi donc abolir cette instruction religieuse? D'ailleurs, il y a un mouvement de parents, d'élèves, etc., qui demandent au gouvernement de reconsidérer leurs décisions.
On imagine quand même vos préoccupations, notamment sur la question de l'enseignement. Est-ce qu'elle est partagée par les autres cultes?
Pour l'enseignement religieux, jusque maintenant, il n'y avait que l'enseignement religieux catholique. Sous l'ancien gouvernement, il y avait un groupe d'experts et ils avaient mis le point sur une injustice. Je partage entièrement leurs critiques. Comme Église, nous sommes pour la liberté de religion, ce qui évidemment veut dire aussi donner droit aux autres communautés religieuses reconnues d'avoir un cours d'instruction religieuse à l'école. Et je pense que c'est surtout pour nos frères et sœurs du monde musulman, qui sont à peu près 2% de la population et qui, à ce moment, sont la deuxième religion après l'Église catholique, qui ne sont pas reconnues par l'État, d'avoir aussi la possibilité d'avoir cet accès.
Mais avec cette séparation entre l'Église et l'État, est-ce que les autres cultes ont le sentiment que ça peut leur servir, desservir ? Comment est-ce que vous percevez
non,
ça, puisque vous travaillez ensemble ?
Les autres cultes le perçoivent comme une menace beaucoup plus grande que l'Église catholique. L'Église catholique, quand même, est la grande religion, disons, dans le pays, tandis que les autres cultes sont de petites communautés, et ce n'ont plus l'apport financier de l'État. Cela voudrait dire que ce serait impossible de maintenir un poste de grand rabbin, de pasteur, etc. Donc ils sont beaucoup plus inquiets que nous.
Vous l'avez dit, le précédent gouvernement avait déjà souhaité qu'il y ait une séparation entre l'Église et l'État. Ça ne s'est pas fait. Là, l'actuel gouvernement insiste et remet évidemment le sujet sur le devant de la scène. Est-ce que vous pensez que cette réforme a des chances d'aboutir ?
Je pense que ça va aboutir, puisque c'est la décision politique de ce gouvernement et que c'est même leur point commun. Parce que pour tout ce qui est politique, économique, quand même, il y a des mondes qui séparent un parti socialiste et un parti libéral. Mais on se met tout de suite d'accord sur tout ce qui touche la religion. On voit l'Église catholique comme la grande ennemie, surtout pour des débats sociaux. Nous aurons maintenant une libéralisation presque complète de l'avortement. Nous aurons le mariage pour tous avec droit d'adoption, etc. Et l'Église est vue comme celle qui freine ces soi-disant progrès sociaux. Et en général, ça vient aussi d'une idéologie lumière française, mais assez peu réfléchie. Il n'y a pas de vrai débat sur la place de la religion dans la société. Je ne suis pas du tout contre une certaine forme de séparation entre Église et État. Cela profiterait aussi à l'Église, certaines réformes. Mais je suis absolument contre que le fait religieux soit uniquement considéré comme privé.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Restons en Europe pour terminer ce magazine. En France, le premier tour des élections municipales se tiendra ce dimanche 23 mars dans la plupart des 36 000 communes françaises, à l'exception d'une soixantaine de municipalités dans lesquelles aucun candidat ne s'est déclaré. Dans un contexte de large perte de crédibilité des responsables politiques, les maires sont parfois le seul relais institutionnel en lequel les électeurs français gardent confiance. Les évêques de France avaient publié un message présentant ces élections municipales comme une chance pour le bien commun. Pour Mgr Pascal Delannoy, l'évêque de Saint-Denis, les élus locaux doivent encourager un climat fraternel sur le terrain et relayer les préoccupations de leurs administrés auprès des autres niveaux de décision. Mgr Pascal Delannoy qui répond aux questions de Cyprien Viette.
Je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a la prise de conscience progressive, un peu à la fois, que les chrétiens peuvent participer au débat public. Autrement dit, qu'ils peuvent également dire et exprimer un certain nombre de choses qui permettront le développement du bien commun. Donc le bien commun, le bien de tous et pas seulement de quelques-uns. Et donc les chrétiens peuvent participer de manière tout à fait légitime au débat sur le logement, l'éducation, la culture et encore bien d'autres sujets.
Dans le message des évêques, vous insistez sur la force de la vie associative, du tissu local. Est-ce que dans des situations de défaillance du politique, est-ce que l'Église peut suppléer à certains manques de présence publique dans certains endroits, comme elle le fait d'ailleurs dans d'autres pays du monde? Est-ce qu'en France, elle a les capacités d'agir pour limiter un peu l'absence de l'État et de système de régulation?
Dans un diocèse comme celui de la Seine-Saint-Denis, où nous sommes marqués par de nombreuses pauvretés, il est vrai que l'Église intervient pour essayer d'aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui connaissent des grandes situations de pauvreté. Je pense par exemple à la domiciliation. La domiciliation, c'est permettre à des personnes qui n'ont pas de logement de disposer d'une adresse postale, indispensable bien sûr, pour trouver un travail et pour accomplir les formalités administratives. Toutes les communes n'ont pas les moyens ou la possibilité de mettre en place cette domiciliation et des associations comme le Secours catholique pallient à ce manque en y répondant. Et puis je pense aussi à ce que nous avons mis en place l'année dernière et que nous poursuivons cette année, qui est l'hébergement d'urgence. Là aussi, nous travaillons en lien avec le Secours catholique pour donner un abri, notamment durant l'hiver, à ceux qui sont sans logement, puisque malheureusement, les structures de l'État ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour répondre à cette question importante.
Au niveau des élus locaux, est-ce que vous sentez de la reconnaissance pour le travail social de l'Église ?
Oui, tout à fait. Durant mes visites pastorales, je rencontre toujours les élus locaux, en général le maire et quelques adjoints, et je sens vraiment de leur part un intérêt pour pour l'Église, un intérêt également pour l'engagement des chrétiens dans la société et au sein de la commune. Aujourd'hui, devant les problèmes que nous devons affronter, je pense que chacun a bien compris que nous ne serions jamais trop pour essayer d'y apporter les meilleures solutions possibles.
C'était Monseigneur Delannoy, évêque de Saint-Denis. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.